FM.
Pastel FM.
99.4 stéréo.
Stéréo.
Pastel FM.
Pastel FM, toutes les couleurs de la musique.
La civilisation et la culture musulmane sont les parents pauvres de l'histoire. Cette civilisation prodigieuse qui a profondément marqué de son empreinte l'histoire de l'humanité reste cependant mal connue. Pour la découvrir, un voyage dans le temps et l'espace vous est offert le vendredi de 20h à 22h au cours de l'émission La Prophétie. Cette émission animée par des personnes compétentes dans leur domaine respectif vous est présentée par Pastel FM 99.4 en collaboration avec l'association Rencontre et Dialogue.
20h55, bienvenue sur les ondes de Pastel FM, émission La Prophétie, donc émission hein, que vous écoutez, vous êtes fidèle à celle-ci tous les vendredis de 20h à 22h, donc émission préparée et animée par l'association Rencontre et Dialogue sur Pastel 99.4. On rappelle la formation avant de commencer, Inch'Allah, le petit cours qu'on a eu juste avant, justement, comment vivre plus longtemps en faisant de bonnes actions, donc avec Hassan Iqusen, ici présent à mes côtés. Donc conférence le 20 février à la MJC. La Fabrique à Tourcoing, le thème, le massacre du 17 octobre 1961, donc projection du film Nuit Noire 17 octobre 61 d'Alain Tasma, et cela à partir de 18h. Et voilà, donc il y aura cela, et cette conférence est animée par Monsieur Abdellah Gounan, documentaliste, donc à la salle culturelle de la MJC La Fabrique, c'est 98 rue de Paris à Tourcoing, 98 rue de Paris à Tourcoing. Donc Hassan, salam alaykoum.
Alaykoum salam, alhamdoulilah, Abdel Qadir.
Comment vivre plus longtemps en faisant de bonnes actions.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimu s-salihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, donc la suite, Abdel Khad, de ce qu'on avait commencé il y a 15 jours, on avait dit en résumé que la vie est courte, elle est très courte, sur les 60, 70 ans, 80 ans, que Dieu veut bien nous allouer. En vérité, plus de la moitié de ce temps passe dans des choses qui ne nous rapportent pas des hasanats lorsque on les fait sans avoir une bonne intention. Par exemple, un tiers de notre temps, si on dort 8 heures par jour, est fait de sommeil. Et en principe, quand on dort, on ne fait pas de bonnes actions, si ce n'est qu'on fait un devoir qui est naturel, c'est-à-dire se reposer. Alors, je dis bien, quand l'intention n'y est pas, quand on ne dort pas comme il se doit, c'est-à-dire islamiquement parlant, parce que on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui s'endort le soir de fatigue parce qu'il a travaillé la journée pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, c'est-à-dire il dort et ses péchés sont effacés. En d'autres termes, celui qui le soir va dans son lit, épuisé, fatigué après une journée longue de travail ou courte, peu importe le travail physique ou intellectuel, celui-là, parce qu'il a assumé, il a accompli son devoir de responsable, celui-là, Dieu lui pardonne ses péchés. Le hadith va plus loin puisqu'il dit que celui qui fait ses ablutions avant de dormir et qu'il dort en état d'ablution, il y a un ange qui spécialement passe la nuit à dire au Seigneur, pardonne-lui, car il s'est endormi en état de purification. Allahumma ghfir lahu warhamhu, fais-lui miséricorde, pardonne-lui. Donc vous voyez que même notre sommeil, subhanallah, peut se transformer en moment d'adoration lorsqu'il est fait comme il se doit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il nous dit, celui qui dit, avant de dormir, non, d'abord celui qui récite, on va parler du Coran toujours en premier, celui qui récite avant de dormir les versets de la fin de la sourate Al-Hashr qui sont Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-aziz al-jabbar al-mutakabbir Subhanallah amma yushrikun, etc. C'est plus long, mais prenez le Coran, prenez la sourate Al-Hashr, et vous allez voir ces versets qui sont des versets qui parlent de Dieu, des attributs divins. Vous verrez que celui qui récite donc ces versets avant de dormir, qu'est-ce qui lui arrive? S'il décède cette nuit-là, il est considéré comme martyr. Vous vous rendez compte, subhanallah, comment c'est facile de dormir dans la piété, comment c'est facile de dormir et de s'en sortir le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'on aura récité. Le hadith va beaucoup plus loin. Il dit, il sera protégé contre le mal jusqu'au matin. Celui qui les récite, avant de dormir, il est protégé. Et pendant qu'il dort, il est protégé. Il est protégé de tous les maux visibles et les maux invisibles. D'accord. Mais il faut penser à réciter ces versets, chose qui n'est pas toujours évidente quand on va au lit. D'ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'endorment la télévision allumée. C'est ça? Qu'est-ce qu'ils font avant de dormir? Ils ouvrent la télé, puis regardent la télé, puis après ils s'endorment. C'est pas très islamique, si je puis dire. Bon, à la rigueur, quand on regarde quelque chose de positif, je veux bien, et encore pas toujours. Le musulman, il ne doit pas s'endormir comme ça. Le musulman, il doit s'endormir avec ses ablutions, il doit s'endormir avec les invocations. Bismikallahumma amut wa ahya, bismikallahumma wada'atu janbi, wa bika arfa'u. Il y a plusieurs doigts qu'il est recommandé de réciter avant de dormir, pour dormir en état de quoi? En état d'adoration. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui récite les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, la vache, la deuxième sourate du Coran. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Aman al-rasul la yukallifu Allahu nafsan. Les trois derniers kafata, ça lui suffit. C'est-à-dire, ça lui suffit en bonne action. Celui qui aura récité ces versets la nuit, le soir avant de dormir, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de faire d'autres bonnes actions durant toute la nuit. Il a fait le plein de hasanat parce qu'il a récité les derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Donc vous voyez que on est capable de transformer notre temps, même le sommeil durant lequel on est inconscient, le transforme en adoration. Il suffit d'être au courant de la sunna, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, nous a enseigné. On l'a dit la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite trois fois la sourate Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, c'est comme s'il a récité le Coran en entier. Voilà comment il faut dormir le soir. Réciter trois fois qul huwallah, réciter qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, il récitait ces trois dernières sourates du Coran et il soufflait dans ses mains et il se frottait le maximum de son corps. Pourquoi? Pour dormir justement en état de pureté, en état d'adoration. La dernière des choses qu'il fait avant de dormir, c'est quoi? C'est un dernier contact avec son Seigneur et ensuite il ferme ses yeux. Et non pas à regarder la télé ou je ne sais trop quoi. Bref, notre temps il passe vite. Et une grande partie de notre temps, plus de la moitié de notre vie, passe dans quoi? Dans des choses qui en principe, lorsque l'intention n'y est pas, lorsqu'on ne connaît pas les règles de l'art islamique, ces choses-là ne nous rapporteront rien dans l'au-delà. C'est-à-dire, on n'aura pas investi. Je vous donne un exemple. Manger est une nécessité biologique. On n'a pas le choix, on est obligé de manger, que ça nous plaise ou non. Comment transformer cette nourriture en... Comment transformer ce temps durant lequel nous mangeons? Pour certains, c'est une heure par jour, pour d'autres, c'est deux heures. D'accord? Comment le transformer en adoration? Sinon, c'est une perte de temps. C'est comme l'animal qui mange pour rester en vie. Et nous, nous ne sommes pas des animaux, nous. D'ailleurs, il y a un verset du Coran qui est magnifique, qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yani, le croyant, il doit comprendre que toute sa vie doit être un moment d'adoration. Son sommeil, son temps de repas, son pèlerinage, ses prières. Bref, ces 24 heures doivent être 24 heures d'adoration. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, vous savez, de tout calculer, de tout penser. C'est encore moins évident quand on ne sait pas comment il faut justement transformer ces temps d'adoration, ces moments en temps d'adoration. Alors
c'est,
il faut,
c'est toute une éducation.
C'est une éducation, et après, c'est une concentration, et après, ça devient naturel. Mmh. Hein, ça devient naturel. Comme quand on respire, c'est un réflexe, c'est naturel. Le croyant, à la fin, il fait ça, c'est un réflexe. Son âme, hein, ne peut plus se passer de cette adoration qui est le zikr, le rappel, l'évocation, la concentration. C'est pour ça que le Coran insiste beaucoup sur le zikr. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui évoquent Dieu debout, assis, allongé. Vous avez toutes les positions. Hein? Assis, même allongé. Quand on dort, on se repose. Hein? Quand on est assis, travail. Bien, on est assis pour se reposer, ou debout, on marche, etc. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Et ceux et celles qui évoquent Dieu énormément, pas un peu, énormément. Et ça veut dire quoi énormément? بُكْرَةً وَأَصِيلًا, le matin et le soir. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, le rappel de Dieu est plus grand que toute autre chose. C'est la plus belle des adorations. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé de Dieu, si je dois faire tout ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, j'y arriverai pas, je suis trop faible. Je me contente de ce qui est obligatoire, mais comment faire pour engranger beaucoup de hasanat? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui indiquer une adoration qui est facile mais qui ramène beaucoup. Il lui a dit: la yazalu lisanu ratban bi dhikrillah. Il reste concentré, évoque Dieu en permanence. D'accord. Je vais vous indiquer une action qui est meilleure, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dépenser de l'or et de l'argent, que même aller au champ de bataille et donner des coups d'épée à l'ennemi et recevoir des coups d'épée. C'est quoi? Zikrullah, le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu. Sabaq al-mufarridoun, ceux qui évoquent Dieu sont les premiers, les gagnants. Très bien. Regardez le repas. Manger. Le temps que ça nous prend pour le préparer, pour le consommer, ce moment peut être un moment d'adoration, à condition de manger du halal. Et deuxièmement, manger dans les règles de l'art islamique. C'est quoi? Manger avec sa main droite, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nul grief de céder avec la main gauche. Mais c'est la main droite qui reste l'essentiel. Et si vous avez des enfants qui sont nés gauchers, depuis la tendre enfance, habituez-les. Quitte à ce que vous les forciez un peu, pour qu'ils aient le réflexe de manger avec la main droite. Le reste qu'ils le fassent avec la main gauche, peu importe. Sauf certaines choses, comme quand on va aux toilettes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné justement de nous laver des parties intimes avec la main gauche. Mais sinon, que l'on fasse avec la main droite tout ce que le prophète faisait. Il donnait avec la main droite, il prenait avec la main droite. C'est ça. Tout ce qui est propre, il le fait avec la main droite. Ce qui est non propre, il le fait avec la main gauche. On mange avec la main droite. Si on mange dans une assiette tous ensemble, on mange devant soi. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit Bismillah. On évoque le nom de Dieu. Et ensuite, quand on a fini de manger, on est reconnaissant. Et un hadith que rapporte l'imam Tirmidhi, radiallahu anhu, qui dit, celui qui dira après avoir mangé, Alhamdulillah alladhi at'amani hadha, louange à Dieu, qui m'a pourvu, qui m'a octroyé, qui m'a donné cette nourriture, wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwatin, et qui m'a donné tout cela par sa grâce, sa force et sa puissance. Regardez ce que dit le hadith. Cette évocation, ce zikr, se rappelle, qu'est-ce qu'il apporte? Les péchés que tu as fait avant d'avoir mangé, les petits péchés que tu as fait entre le déjeuner et le souper sont effacés. Un acte biologique nécessaire, obligatoire, manger, se transforme en acte d'adoration qui efface les péchés entre midi et 20h ou 22h.
On va prendre une question à Hassan.
Oui.
Il est plus de 21h, donc... Oui, allô? Allô?
Allô, salam
alaykoum. Salam
alaykoum. Salam alaykoum.
C'était pour poser deux questions.
Allez-y.
La première, c'était...
Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît, on vous entend mal.
Ok, d'accord. C'était pour poser deux questions.
Oui.
La première, c'était, j'ai soldé pendant un mois et après j'ai arrêté. Et après j'ai repris deux semaines et j'ai arrêté. Et là, j'ai envie de reprendre, mais vraiment, vraiment reprendre. Et c'était pour demander qu'est-ce que c'est haram, parce que enfin, et s'il faut que je rattrape les jours que j'ai raté ou pas.
Très bien. Avant de vous répondre à votre question, vous permettez, je vais vous poser une question. C'est qu'est-ce qui vous pousse à arrêter ? Ce qui vous pousse à prier, alhamdoulilah, c'est clair et évident, c'est-à-dire vous avez la foi, vous êtes consciente qu'il faut obéir, et la prière est un pilier, un fondement de l'islam. Vous avez l'amour de Dieu dans le cœur, et vous avez la peur de Dieu. Et puis, tout d'un coup, boum, vous arrêtez. Alors, je connais la réponse. Hein. En général, c'est parce qu'il y a une perte de foi, une perte, une diminution de l'amour, mais il y a aussi peut-être des difficultés de la vie de tous les jours, des obstacles que vous rencontrez, des coups de blues qui vous poussent justement à arrêter la prière. C'est ça ?
Oui.
Alors, ce que je vous recommande et ce que je vous conseille d'abord, c'est renforcer votre foi. Entretenez-la. La foi, ça monte et ça descend. Si vous n'entretenez pas votre foi, vous allez me retéléphoner dans un mois, dans deux mois, et me dire, j'ai arrêté, je vais reprendre pour de vrai, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, il faut toujours aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est développer l'amour de Dieu, c'est la carotte, et le bâton, la peur et la crainte de Dieu. Et vous allez me dire, comment faire ? Il faut du savoir et de la science. Vous savez, une plante, si vous ne l'arrosez pas, si vous ne la mettez pas au soleil, elle va faner. La foi, si vous ne l'arrosez pas avec le savoir, la connaissance, si vous ne lisez pas le Coran, si vous ne lisez pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'avez pas un contact permanent avec le rappel, le savoir, la connaissance qui vous permet d'avoir une foi éclaircie. Hein, vous voyez clair, vous êtes convaincu, vous allez continuer à monter et à chuter, à des hauts et des bas dans votre pratique. Donc, vous entretenez votre foi, vous fréquentez des gens qui pratiquent, qui ont la foi, parce que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il faut être dans une ambiance, vous savez, pour être emporté, entraîné. Puis vous demandez surtout à Dieu, sincèrement, dans vos invocations, qu'il affermisse vos pas. Parce qu'on n'est pas à l'abri de ce qui vous arrive. Aujourd'hui, on est plus ou moins croyant, c'est pas demain. Si une tuile nous tombe sur la tête, comment on pourrait réagir ? Maintenant, par rapport à ce qui vous est arrivé, vous avez arrêté, vous avez repris, vous avez arrêté. Sachez que ne pas faire la prière, c'est un grand péché. Et le grand péché, pour se le faire pardonner, il y a des conditions. La première des conditions, c'est qu'il faut regretter. D'accord ? Sincèrement. La deuxième, c'est qu'il faut décider sincèrement de ne plus recommencer. La troisième, il faut demander à Dieu pardon, sincèrement. D'accord ? Et maintenant, vous allez faire, inch'Allah, des bonnes actions pour rattraper. Parce que même si Dieu vous pardonne, et il va vous pardonner, inch'Allah, ben, vous avez quand même raté des tonnes et des tonnes et des tonnes de hasanat. Donc il faut essayer de rattraper le retard parce qu'on vous a devancé et nous qui n'avons pas arrêté. D'accord ? La deuxième question, c'était ?
La deuxième question, c'était parce que la nuit, enfin, j'ai l'impression d'être réveillée, mais je me paralyse. Et il y a une. Enfin, comme si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans mon oreille qui me chuchote quelque chose. Et c'est pour demander s'il y avait une sourate pour ça, enfin. Enfin, c'est pour demander la question. Enfin, je sais pas si c'est vraiment.
Alors, je ne vais pas vous mentir, hein. Ces phénomènes un peu, je ne vais pas dire c'est du surnaturel, mais ça frôle un peu avec tout ce qui n'est pas très carré, me dépasse. Hein. C'est une impression que vous avez, à mon avis, calculez pas tout cela. Essayez de dormir en état d'islam, c'est-à-dire vous faites vos ablutions. Vous faites une prière avant de dormir, vous faites des invocations, vous lisez un peu de Coran, vous allez vite à la librairie Saphir rue de l'Eppel et vous achetez un livre qui s'appelle Le Rappel, vous apprenez les invocations qu'il faut réciter avant de dormir, vous apprenez les sourates qu'il faut réciter avant de dormir, et puis vous ne faites pas de péché avant de dormir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui regardent la télé ou qui sortent sur internet et qui font des tonnes et des tonnes de péchés ensuite qui vont dormir. Ces gens-là dorment avec shaitan. Et vous dormez avec l'intention de vous réveiller le matin. Pardon, pour faire la prière, c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dort en état d'ablution et qui fait toutes les invocations qu'il faut, il y a un ange qui l'accompagne dans son sommeil, qui dit au Seigneur, pardonne-lui. Alors l'autre,
Bien entendu, si ce n'est pas un ange qui est avec lui, c'est qui, à votre avis, qui va être avec lui?
Le shaitan.
Vous avez tout compris. Et le shaitan, vous savez, c'est quoi sa spécialité? C'est ce qu'on appelle el-waswas. Al-ladhi waswisu fi sudurinas. Il nous insuffle au fond de nous-mêmes les mauvaises choses. D'accord? Voilà.
Ben voilà, je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour votre appel.
Je vous souhaite toute bonne continuation.
Merci, barakallahu
fikoum. Et au revoir.
Pour plaisir, Inch'Allah. Shukran. Salam alaikum.
Donc,
qu'est-ce que je disais?
On était sur la doua pendant le repas, quoi.
Voilà. Celui qui récite donc cette invocation après avoir mangé, il a été reconnaissant, d'une. De deux, il a effacé chez ses péché. De trois, il n'a pas perdu son temps. Hein? Son temps, il l'a transformé en adoration. C'est-à-dire, il est capable, hein, je ne sais pas, je n'ai pas fait des calculs, mais si par exemple on prend une heure par jour, donc 365 heures en une année, multiplié par 10 ans, 3650 heures, multiplié par 5 si on vit 50 ans, donc ça fait quelques centaines de milliers d'heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces heures ont été récupérées. Pourquoi? Pour nous rapprocher de Dieu.
Non, ça va. On va prendre une autre question. Oui, allô? Allô?
Allô, salam alaykoum.
Alaykoum salam.
J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît.
Oui.
Par rapport à Dikr,
oui.
Si on perd les ablutions,
oui.
Les petites ablutions, est-ce qu'on doit arrêter de dire ou bien on continue?
Alors, ce n'est pas une obligation que d'invoquer et d'évoquer Dieu en état d'ablution. C'est recommandé, c'est très bien, si vous le faites. Si vous avez la possibilité de refaire vos ablutions, faites-les. Si vous n'avez pas la possibilité, continuez votre dhikr. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un l'a salué. Et le prophète n'a pas répondu. Il ne lui a pas dit « Wa alaykum salam wa rahmatullah ». Et ensuite, le prophète rappelle la personne en lui disant « Tout à l'heure, je ne t'ai pas répondu parce que je n'étais pas en état d'ablution et je n'aime pas, dit le prophète, hein, il ne sied pas à ma personne d'évoquer Dieu sans être en état d'ablution. » Donc c'est un hadith sahih. Mais nous avons un autre hadith rapporté par Aïcha, son épouse, radiallahu anha, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, évoquait Dieu dans toutes les circonstances. C'est-à-dire en état d'ablution et en état de non-ablution. Donc, le top, l'idéal, le mieux, le recommandé, c'est d'avoir ces ablutions pour faire du dhikr. Mais si on ne les a pas, ce ne doit pas nous empêcher de faire du dhikr. On le fait quand même. D'accord.
Même la récitation du Coran.
Tout à fait, même la récitation du Coran, puisque la récitation du Coran, c'est un dhikr, c'est le meilleur des dhikrs. Donc vous marchez dans la rue, vous êtes dans le bus, vous récitez le Coran.
Des fois, au cours de la journée, il y a des moments où on perd les ablutions.
Tout à fait.
Et puis on se demande si on continue à faire...
Oui.
Mais quand vous dites que ce n'est pas recommandé... Ben...
Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas recommandé. Non, attendez, je répète. Hein. J'ai dit que c'était recommandé d'avoir ces ablutions pendant qu'on fait le dhikr. Mais si nous n'avons pas nos ablutions, on fait le dhikr quand même.
Oui, moi je préfère en état d'ablution.
C'est évident. Tout le monde le préfère. Mais le fait de ne pas être en état d'ablution, ça ne doit pas vous empêcher de faire le dhikr. Parce que vous ratez quelque chose qui est beaucoup plus important.
Oui.
Vous entendez?
Et on a la même récompense que ce soit avec les ablutions ou sans.
Allez, il est évident que celui qui peut faire ses ablutions et qui les fait, et celui qui peut et qui ne les fait pas ne sont pas les mêmes. Mais celui qui ne les a pas et qui voudrait et qui ne peut pas, Dieu le récompense avec son intention.
Toujours l'intention.
C'est-à-dire, si vous n'avez pas vos ablutions et vous avez envie de les faire, mais vous ne pouvez pas, vous êtes dans le bus, vous faites votre dhikr et vous avez la récompense de celui qui fait le dhikr en état d'ablution. Oui. D'accord?
D'accord.
Allah,
je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Salam alaikum. Très bien. Donc, on a pris l'exemple du repas. Hein, celui qui évoque Dieu en avant de manger, pendant qu'il mange et après manger. Tout ça, ça devient quoi? Ça devient un moment d'adoration. Et Shaitan, alatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous empêcher justement d'adorer Dieu pendant qu'on mange. Puisque le hadith dit, celui qui ne dit pas Bismillah, ou celui qui mange avec sa main gauche, le Shaitan participe à son repas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la demi-heure ou le quart d'heure que tu vas passer à manger à table, ben, c'est un quart d'heure de perdu, parce que Shaitan était un invité. Et qui l'a invité, c'est toi. Tu l'as invité comment? Ben, en oubliant d'obéir à Dieu et à son prophète.
Barakallahu fik. On va reprendre une question. Oui, allô? Allô?
Allô?
Il faut couper la radio là.
Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc voilà, j'ai une question. Voilà. Ça fait combien depuis 2003, depuis la grossesse de mon premier enfant, que j'ai des jours à rattraper par rapport au mois du Ramadan, hein, des jours de jeûne. Et puisque j'ai fait allaitement, enfin grossesse allaitement. Et ensuite, je suis encore retombée enceinte, donc ça fait grossesse et encore allaitement. Comme j'ai allaité deux fois, presque deux ans, en fait, là, je suis encore en train d'allaiter. Et dans les jours où je me sentais pas en forme, je ne jeûnais pas pendant le mois du Ramadan. Ce qui fait que là, j'ai un cumul de à peu près deux mois. Et je voulais savoir s'il était important de rattraper avant le Ramadan qui arrive. Si je pouvais encore reporter à l'année d'après.
Très bien. J'ai compris votre question. Et je crois que votre enfant a la même question aussi à poser. C'est ça?
Comment?
Votre enfant, il veut poser la question lui aussi.
Oui, oui.
Merci. Que Dieu vous protège et protège vos enfants.
Amen.
Alors, en ce qui concerne votre question, elle est claire. En tout cas, je vous félicite pour votre courage et votre merci. Allaitement. C'est très bien d'allaiter ses enfants et si toutes les mères pouvaient allaiter leurs enfants, ça serait beaucoup de bien pour les enfants, Nahi Berk. Alors, apparemment, vous avez déjà cumulé plusieurs ramadans.
Oui,
alors, si vous avez la force et le courage de rattraper, c'est magnifique, c'est super. Si vous n'avez pas la force et le courage, vous donnez pour chaque jour, si ça fait au total une trentaine de jours, donnez l'équivalent de 30 repas.
30 repas.
Ouais, 30 repas, c'est-à-dire l'argent. C'est un repas qui coûte 5 euros. 30 fois 5, ça fait 150 euros. Vous les envoyez au Secours islamique ou bien au CBSP pour que ça aille spécialement en Palestine, pour que ça aille aux pauvres, et ça sera une compensation pour tous ces jours.
D'accord.
Voilà. Allah ibarak fik, et puis bonne chance et bon courage pour l'éducation des enfants.
Comme
salam wa rahmatullah.
On va s'opérer, Inch'Allah, une petite pause, Hassan, et puis on se retrouve dans 5 minutes. On rappelle 0320 73 59 00, donc ça c'est les coordonnées téléphoniques. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, et en direct. Une petite pause, Inch'Allah. 21h31, de retour sur les ondes de Pastel FM. Vous êtes à l'émission La Prophétie, on a une personne en direct, donc question posée à Hassan, à mes côtés. Salam alaikum. Allô?
Oui, bonsoir, salam alaikum.
Salam.
Voilà, moi je voulais poser une question.
Allez-y.
C'est propre à ma personne, en fait. Voilà, j'ai 35 ans. Et donc, voilà, je vis seul, tout ça. Maintenant, j'ai repris une activité, tout ça, et un peu une activité vers la religion. Et donc, ce serait pour savoir comment je peux faire, par exemple, pour me marier, tout ça, ou partir vers la recherche, justement, vers une personne qui voit les mêmes choses que moi, c'est-à-dire la prière, tout ça.
D'accord. Votre question est claire, nette et précise. Et je vous salue, hein. Et je vous remercie, Cécilie. Oh là là, Cécilie. Pour votre courage et votre franchise. Donc, je traduis ce que vous venez de dire au public qui nous écoute. Donc, vous êtes quelqu'un qui voulait vous stabiliser en créant un foyer. Vous cherchez votre moitié depuis longtemps, je suppose, et vous n'arrivez pas à la trouver. Et là, à travers les ondes de Radio Pastel, vous criez et vous appelez en disant, voilà, je veux me marier avec quelqu'un de sérieux, avec quelqu'un qui a les mêmes idées, les mêmes ambitions, le même projet que moi. C'est ça ?
Oui, tout à fait.
Alhamdulillah. Moi, c'est honnête et c'est courageux de votre part. Bah, écoutez, je vais vous répondre franchement en vous disant que beaucoup de gens sont dans votre situation. Et j'ai envie même de dire que beaucoup de femmes sont dans votre situation. Peut-être plus de femmes que d'hommes. Et d'ailleurs, j'ai reçu un coup de téléphone cette semaine d'une femme qui connaît quelqu'un, qui connaît des moments très difficiles, parce que cette jeune femme qui a 25 ans n'est toujours pas mariée. Elle est sérieuse, elle est chez elle, elle s'occupe de ses parents. Quelqu'un qui est à l'UFM, si ma mémoire est bonne, donc qui a fait des études et qui est en train de se préparer pour l'enseignement, et qui n'attend qu'une chose, c'est quelqu'un comme vous, de sérieux, qui veut vraiment construire un projet familial. Mais malheureusement, vous n'avez pas son adresse, elle n'a pas votre adresse, vous ne vous êtes jamais croisé, il n'y a personne qui jusqu'à aujourd'hui crée des liens et des contacts entre des gens comme vous.
Voilà, tout à fait, oui.
Donc c'est une problématique dans la communauté, c'est partout pareil en France. Quand je me déplace et je fais des conférences, cette question revient toujours. Les garçons me disent, on fait comment pour se marier? Et les filles disent, on fait comment pour se marier? Et parfois, dans la même salle, vous avez des garçons qui disent, je voudrais me marier, vous avez des filles qui disent, je voudrais me marier. Donc comment faire? Alors je vous avoue que je n'ai pas de solution miracle, mais je vais vous donner des pistes. La première des pistes, c'est que vous avez sans doute dans votre entourage des connaissances, parce que vous ne vivez pas seul. Alors je parle des connaissances, c'est-à-dire vous connaissez des garçons, des hommes. Et je suis sûr que vous devez avoir des copains et des amis, des gens que vous estimez, qui vous estiment. Et je suis sûr que ces personnes, au moins il doit en avoir une ou deux, qui ont des sœurs, ou qui ont eux-mêmes des cousines et des connaissances. Donc je pense que ce que vous venez de dire aujourd'hui, vous devez le dire dans votre entourage. C'est pas une honte, au contraire, c'est à votre honneur que de dire aux gens à qui vous avez confiance et qui vous font confiance que vous voulez vous marier, et s'ils connaissent quelqu'un, alors qu'ils créent le contact entre vous et cette personne. Là, c'est naturel. Deuxièmement, si vous fréquentez une mosquée, et je vous invite à fréquenter une mosquée, c'est ce que doit faire tout musulman, vous devez vous faire connaître, vous devez entrer en contact avec l'imam, avec les responsables, qui devraient, c'est un de leurs devoirs, ces responsables des mosquées, ces imams, répondre aux attentes de la communauté musulmane, et à votre attente en particulier. Ils devraient intercéder, intervenir en votre faveur et en faveur de toutes ces jeunes femmes qui attendent. Troisièmement, et là, peut-être que je vais choquer, mais on est là pour discuter, hein. Ce sont des pistes, hein. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile, tout se discute. C'est que, alhamdoulilah, il y a des événements tout au long de l'année, qui sont des événements créés par des associations musulmanes, et en particulier, ça me fait mal au cœur de ne citer que l'ARD, l'association Rencontre et Dialogue. Je parle de Roubaix, en fait il y a aussi JMF, Jeunes Musulmans de France, mais c'est plus sur Tourcoing et Lille. Mais en tout cas à Roubaix, et on salue Rencontre et Dialogue pour le travail merveilleux qu'elle fait, les associations qui créent des activités, hein, des conférences, des forums, des soirées solidarité, etc., des repas, et il y a un public musulman, public très pratiquant, peu moins pratiquant, musulmans, non musulmans, des hommes et des femmes qui viennent, très nombreux, lors de toutes ces activités. Pourquoi ? Ben, pour justement apprendre, pour échanger. Et puis c'est une occasion, justement, pour faire des rencontres. Donc vous allez me dire, oh là 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 là, vous allez transformer les rencontres en moments pour... Non, je n'ai pas dit que c'est l'objectif. Mais pourquoi ne pas profiter de ces moments, justement, pour entrer en contact et faire connaissance? Nul grief, ce n'est pas un mal en soi. Au contraire, si on ne se rencontre pas dans ces lieux, dans ces moments, dans ces endroits, où voulez-vous que l'on se rencontre? Donc, ce sont des pistes, mais ça nécessite, je pense, une émission, hein, carrément. Comment faire pour que nos jeunes garçons et filles se rencontrent pour se marier? Alors, il y a Internet. Il y a certains journaux aussi, je ne sais même pas si à Roubaix il y en a un, mais j'ai vu à Paris qu'il y en avait. Alors, avec ce que ça a de positif, de négatif, des avantages, des inconvénients, ça reste toujours que les intermédiaires sont peut-être les moyens les plus sûrs ou les moyens où il y aura le moins de problèmes. En tout cas, vous nous avez contactés, je vous remercie et je ne vais pas transformer l'émission prophétie en émission matrimoniale qui a pour objectif de marier les gens, mais en tout cas, toutes les jeunes femmes qui vous ont entendu aujourd'hui et qui ne sont pas mariées et qui attendent avec impatience quelqu'un comme vous pour fonder une famille, qu'elle nous téléphone à la radio, d'accord? On essaiera peut-être, en fonction du temps que nous avons, de créer des contacts, inshallah, pour faire avancer les choses dans notre communauté, parce que c'est catastrophique, hein, à 35 ans, un jeune homme qui sait même plus, excusez-moi, vous êtes plus un jeune homme, vous êtes un homme qui a atteint l'âge de la maturité et vous n'êtes pas encore marié, c'est presque du gâchis. Que Dieu vous préserve et vous protège.
Amin, barakallahu fik. On va continuer sur notre thématique, hein, comment vivre plus longtemps en faisant bien sûr de bonnes actions.
Donc, on a parlé, hein, plus ou moins du décret. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le décret, on y reviendra. Mais là, je vais insister.
Il y a une question là en direct.
On privilégie le direct.
On va privilégier justement le direct. Tu vas poser la question, tu vas te présenter.
Salam alaikum, je m'appelle Abdelrahman Gotay.
Bienvenue Abdelrahman à la radio.
Ma question c'est pour vous demander si parce que des fois quand ma mère elle me dit va faire la prière, et ben moi des fois et ben j'ai l'impression j'ai pas envie de la faire.
Oui.
S'il y a pas une sourate qui peut me la tirer, c'est de...
D'accord. Donc comment faire pour que lorsque tes parents te disent va faire la prière, tu aies envie de la faire, parce que parfois c'est dur, tu traînes les pieds, c'est pas facile. En tout cas, je te remercie pour ta question parce que moi elle est franche, elle est claire. Hein, tu dis tout haut ce que tu vis, ce que tu penses tout bas. Et puis au passage, on salue aussi tes parents qui discutent avec toi, qui dialoguent.
Ouais.
Et ça, il faut que les parents, quand ils éduquent leur enfant, les éduquent à travers le dialogue et non pas à travers le monologue. C'est-à-dire à sens unique. On donne des ordres et on force. C'est pas comme ça qu'on avance. Quoique parfois il faut donner des ordres, mais il faut surtout expliquer, dialoguer et être à l'écoute de ses enfants et comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent et leur apporter des réponses. Alors ta question, sache que ce que tu vis, c'est tout à fait logique et normal, Ahmed. Même nous, tu sais, les plus âgés, même nous, les parents, parfois on a du mal à faire la prière. On y va, mais avec une de ces difficultés, tu ne peux pas savoir. C'est comme si on portait sur notre dos un poids lourd. Tu t'imagines quelqu'un qui porte 200 kilos. Est-ce qu'il court?
Non,
pas. Il marche difficilement. Il lui arrive même de tomber. Par contre, quelqu'un qui porte un gramme, il ne sent pas. Donc, la prière, ouvre tes oreilles, Abdelrahman. C'est pas facile. C'est pas moi qui lui dis, c'est Dieu qui lui dit dans le Coran. Innaha lakabiratun. Dieu dit, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose qui demande beaucoup de courage et beaucoup d'efforts. On est d'accord? Donc, c'est normal et c'est naturel parce que, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de la faire avec le sourire, avec facilité. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, Abdelrahman, et moi? Qu'est-ce qui m'empêche de faire la prière avec beaucoup de facilité parfois? Je vais te le dire. Primo, tu disais quoi? C'est... on est un peu fainéant parfois. Ouais,
ouais, ouais.
Ouais, c'est ça,
on a envie de jouer et tout.
C'est ça, on aime bien s'amuser, on aime bien regarder la télé. De manière générale, l'être humain n'aime pas beaucoup faire des efforts. Il préfère que ce soit les autres qui travaillent à sa place. Ah oui.
Ouais.
Hein, on aime bien quand les autres nous servent. Mais nous, quand on doit servir, on n'aime pas. Hein, on aime bien quand on reçoit, on n'aime pas donner. Donc ça, c'est le vice qui existe chez l'homme, il faut le combattre. Ouais.
C'est
ça, il faut combattre, il ne faut pas se laisser faire. Parce que tu sais, si on s'écoute, on devient fainéant et on devient parasite, on profite des autres. Ouais, et ça, ce n'est pas bien. Tu t'imagines quelqu'un qui vient, qui profite de toi tous les jours, tu vas aimer? Tu ne vas pas aimer. Quelqu'un qui vient et qui te dit tous les jours, tu vas faire ça, au lieu que ce soit lui qui le fasse, tu ne vas pas aimer. Donc, puisque tu n'aimes pas qu'on te le fasse, bah toi, tu ne dois pas le faire aux autres.
Comme par exemple, j'ai une boulangerie. Non, c'est un exemple. Hein. Moi, j'ai une boulangerie et l'autre en face, c'est une boulangerie.
Oui.
Moi, je vais casser sa boulangerie.
Mm-hmm.
Et moi, j'aime bien de le faire. Mais lui, il n'aimerait pas. Si quelqu'un me le fait, moi, je n'aimerais pas.
Tout à fait. Donc, il faut aimer à l'autre ce qu'on aime pour nous-mêmes. Il ne faut pas vouloir à l'autre ce qu'on ne veut pas pour nous-mêmes. Donc, il faut combattre nos défauts. Et quel est le défaut que nous avons? C'est la fainéantise, hein, c'est le laisser aller. Et puis, on ne veut pas trop se sacrifier. Deuxième, il y a les chayatines, les diables qu'on ne voit pas, qui veulent nous freiner, nous empêcher de faire la prière et qui veulent nous empêcher d'adorer Allah.
Ce qu'on va faire, Inch'Allah Abdelrahman, il pourra continuer à poser d'autres questions. On va en privilégier effectivement le dire. Il y a des personnes en ligne qui attendent. Et
on terminera
sur la réponse après. Oui, allô? Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je suis déficiente visuelle et je voulais passer en direct et entendre de la bouche d'un imam qu'une personne handicapée est une personne tout à fait dans les normes pour pouvoir pratiquer la religion ou pour pouvoir pratiquer les devoirs, que ce soit conjugaux ou de la maison ou du travail. Et on remarque que énormément de personnes ont peur de s'unir que les valides ont énormément peur de s'unir à des personnes handicapées, surtout malheureusement, je dis bien malheureusement, chez les musulmans. Et donc, pourriez-vous éclaircir un petit peu ou éclairer un petit peu les lanternes des personnes qui sont un peu réticentes pour leur dire que effectivement on a tous du mal à se marier, à trouver des personnes qui nous conviennent, et que le handicap n'est pas forcément un problème. Et il pose aussi beaucoup de problèmes, je pense, aux beaux-parents.
Oui.
Donc beaucoup de personnes, il y a peut-être des personnes qui veulent être avec une personne handicapée, je l'ai vécu moi-même donc je peux le dire, et la personne, j'ai perdu le fil, et donc la personne en fait est un peu entravée par ses parents,
sa famille, son entourage.
Voilà, et c'est un peu dommage. Et alors, dommage. Quand les personnes voient une personne handicapée, pour les personnes, quand un valide voit une personne handicapée, il ne voit que le handicap, il ne voit pas l'intérieur de lui-même. Et,
en tout cas, ça.
Pratiquant ou pas, hein,
ça le mérite d'être clair.
Voilà, exactement.
Non, donc, c'est
un peu une réponse, par exemple, à la personne qui a appelé tout à l'heure. Mais je n'appelle pas en mon nom parce que moi, alhamdoulilah,
En tout cas, je vous remercie pour votre appel, votre clarté d'esprit et d'élocution. Et puis,
on va prendre, si tu veux, il y a encore une question, tu répondras juste après.
Donc, je vous réponds, Inch'Allah, après la personne. Merci de votre appel.
C'est moi qui vous remercie.
Allah yibarak fik, ma sœur.
Salam
alaykoum.
Alaykoum
salam. Oui, allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, alaykoum salam.
Oui, j'aurais aimé avoir un conseil de votre part.
Oui.
C'est que j'avais l'intention de me marier, je suis en instance de divorce. Et comme j'ai toujours pas la non-conciliation, j'aurais aimé savoir s'il était possible de faire une fatha.
D'accord, vous étiez mariée donc officiellement, c'est ça?
Voilà.
Oui, c'est une question très intéressante.
Civilement, et ça va faire 2 ans que je suis séparée de cette personne, et on n'a pas tenté à reprendre une vie en commun.
Au fond de vous-même, vous n'avez vraiment plus l'intention de retourner vers votre mari.
Du tout, et même lui, il m'a dit que je pouvais refaire ma vie, et je lui ai demandé s'il pouvait poser ça par écrit.
Oui.
Et depuis il a bien certifié devant témoin qu'il n'avait plus l'intention de retenter quoi que ce soit avec moi et moi envers lui aussi.
Et comment se fait-il qu'après 2 ans, vous n'ayez toujours pas eu votre divorce?
En fait, c'est qu'il y a eu le dossier d'aide juridictionnelle qui a pris du temps. C'est dans le sens aussi... ça c'est par rapport aux enfants. Il y a un avocat qui a mis énormément de temps pour...
D'accord. Alors maintenant, est-ce que ça va se débloquer sous peu?
J'espère, Inch'Allah. Normalement, oui.
En tout cas, moi, ce que je vous recommande et ce que je vous proposerai comme solution, c'est de patienter encore un peu, le temps d'avoir les papiers officiels de divorce, pour ensuite vous engager avec une autre personne.
D'accord. Et quand vous dites papier officiel, est-ce que vous savez un papier... est-ce que vous savez lequel précisément?
Lorsque le tribunal se sera prononcé et qu'il aura décidé que vous n'êtes plus marié.
D'accord.
D'accord.
C'est qu'en fait, l'attente, au niveau de l'attente, ça commençait à être long avec cette personne. C'est que bon, ben déjà, on se voit pas, on doit pas être en contact.
Cette personne est impatiente.
Mais c'est pas un caprice. Hein. Faut pas voir ça comme un caprice ou.
Est-ce que vous
c'est qu'on
pensez...
a vraiment envie de s'engager, on a vraiment des points en commun, on correspond chacun.
C'est magnifique. Est-ce que vous avez un pressentiment que si jamais vous ne vous mariez pas sous peu, ça peut connaître
un débordement. Ben, en fait, depuis cette semaine, oui, ça risque.
D'accord.
Ça risque parce que, bon, bah, comme il dit, il cherche à s'impliquer. Il veut vraiment. Ben...
Oui, j'ai compris ce que vous dites, mais moi je suis toujours.
On doit éviter le téléphone.
Non, moi, vous savez, ce qui me fait toujours peur, c'est quand il n'y a pas un mariage officiel. D'accord, ça me fait peur parce que j'ai tellement l'esprit de cas où des femmes sont mariées sans passer par la mairie et puis ça n'a pas duré longtemps et ensuite la femme se retrouve dans une situation catastrophique puisque son soi-disant époux mari n'assume pas ses devoirs. Vous savez, quand on divorce, il y a des responsabilités.
C'est au point de vue de la sécurité.
Tout à fait. Donc c'est pour ça que je préfère que vous attendiez, que vous soyez divorcé et ensuite vous engagez civilement, hein, avant de vous engager uniquement religieusement. Vous me suivez ?
Mm-hmm.
Donc faites accélérer la procédure de divorce, demandez à votre futur conjoint de patienter encore quelques temps et créez des moments, des occasions où vous rencontrez, mais en famille, toujours avec des proches.
Bah, c'est qu'en fait, nos familles sont non musulmanes.
Moi, je pense que vous avez un proche, c'est pas grave. Hein, tant que vous avez un proche de votre famille, musulman ou pas musulman, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ne vous retrouviez pas.
Et comment accélérer la procédure de divorce?
Ça, il faut voir avec les avocats. Normalement, vous devez faire un divorce à l'amiable si vous voulez que ça aille vite.
Ben, c'est déjà ce qui a été convenu.
Et faites accélérer la procédure. Faites pression sur vos avocats.
Ben, il veut même plus décrocher au téléphone.
Oh, c'est catastrophe.
Ouais, non, mais c'est pour dire que là, c'est...
Ouais. Ouais, non, c'est deux ans, c'est long et c'est beaucoup.
Mais si, je veux dire, si on voit... Parce qu'en fait, on avait convenu aussi avec cette personne de... En fait, on avait pensé à un Pax avant le mariage officiel.
Non.
Mais toujours sur le point de vue du mariage officiel, en fait, en attendant.
Oui. Là, je pourrais pas vous conseiller, Allah, parce que je connais pas très bien le Pax. C'est
non, c'était en attendant, mais bon, même le Pax, en fait. Non, on cherchait un engagement, une union civile.
Oui.
Au point de vue de l'engagement, en attendant...
Allah, ma soeur, hein, je m'abstiens parce que je maîtrise pas trop donc les tenants et les aboutissants. En tout cas, le seul conseil que je peux vous donner à mon niveau, c'est ça. C'est accélérer la procédure de divorce pour vous engager, mais rien ne vous empêche de consulter quelqu'un d'autre. D'accord ?
Ben, je fais que ça, en fait.
Ben, consulter et ensuite consultez-vous.
En fait, on me donne des avis tout à fait différents. On me dit
tout
qu'on
à
est
fait.
Tout à fait... le fait qu'il ne veut plus du tout refaire sa vie avec moi et...
Ah oui, non, c'est clair, moi je suis
et
d'accord.
En fait, il y a un imam qui veut bien nous marier, même.
Moi je suis d'accord que vous êtes divorcée concrètement, mais bon, il faut quand même des papiers. Hein, je veux dire, si vous décidez... Si demain vous décédez... ça reste toujours que pour l'instant vous êtes marié. D'accord. Mais en tout cas, continuez vos consultations et ensuite laissez votre cœur vous répondre.
Inch'Allah.
Vous me suivez? Hein? Laissez votre conscience vous répondre à la fin. D'accord.
Très bien. Voilà.
Je vous souhaite le bonheur.
Merci bien,
Donc, la question, on aille plus vite parce que l'émission touche à sa fin. Donc, par rapport à notre sœur tout à l'heure qui nous a appelé, je suis pas d'accord sur l'introduction hein, quand vous avez dit que les personnes invalides étaient égales aux personnes non invalides. Je partage pas tout à fait votre avis. Moi, je suis plus pour dire que les personnes invalides sont supérieures aux personnes non invalides. Parce que les textes sont clairs pour dire que lorsque Dieu éprouve quelqu'un et que cette personne considère que c'est une épreuve qui vient de Dieu et agit spirituellement comme il se doit, cette personne est aimée de Dieu. Celui qui est aimé de Dieu est supérieur à celui qui n'est pas aimé par Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui est authentique, Dieu dit, donc c'est un hadith Qudsi, lorsque j'éprouve mon serviteur ou ma servante en lui retirant les deux choses qu'il aime, c'est-à-dire ses deux yeux, donc en lui retirant la vue, et qu'il patiente, qu'il gère son handicap spirituellement comme il se doit, il n'aura d'autre récompense si ce n'est le paradis. Donc ce hadith est là pour nous dire que personne, lorsqu'elle est éprouvée physiquement, et qu'elle considère que cette épreuve vient de Dieu et qu'elle a pour objectif de la rapprocher de Dieu et qu'effectivement, concrètement, la rapproche de Dieu, comme j'ai ressenti dans vos propos, comme j'ai ressenti aussi dans votre chaleur spirituelle, vous n'êtes pas identique aux autres. Vous avez un grade, un degré, voire des grades et degrés de plus que les autres, et Dieu seul est au courant du fort intérieur de tout un chacun. Je vous souhaite énormément de foi, encore plus, beaucoup de patience. Ce qui concerne ce que vous avez dit, les tabous dans la communauté, je suis d'accord avec vous, ils existent et je les condamne et je les combats. Et toute personne qui nous entend ce soir et qui a un cœur et qui voudrait se marier, voilà, votre sœur, elle est là, elle est présente. Je pense qu'elle est extraordinaire. Que ces obstacles culturels, ces tabous, ne soient pas un frein pour aller demander sa main et l'épouser. Personnellement, j'ai vécu depuis ma tendre enfance, en ayant à l'esprit, mais aussi en côtoyant une personne comme vous, qui est aveugle, qui est mariée, et qui gère son foyer, mais d'une manière extraordinaire, à la voir. On lui rend visite, on la connaît, d'ailleurs on lui donne le titre de maman. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'en a pas, mais on l'appelle maman. Elle est beaucoup plus compétente que certaines voyantes, et elle assume mieux son devoir que certaines voyantes. Elle est d'une bonté et d'une foi extraordinaire. Donc les apparences, comme vous avez très bien dit, sont trompeuses. Il faut juger les gens en fonction de leur cœur, en fonction de leurs sentiments, en fonction de leur bonté, de leur intelligence. Le reste est secondaire. Combien de gens sont voyants et ils sont aveugles des cœurs? Combien de gens ne voient pas avec les yeux, ils voient avec le cœur, ils sont mille fois meilleurs. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Dieu dit dans le Coran, le vrai aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas avec ses yeux, mais celui qui ne voit pas avec son cœur. Donc je vous souhaite encore plus de félicité sur terre et dans l'au-delà. Pour finir avec Abdelrahman, parce que sa question est très très intéressante. Donc je disais, Abdelrahman, il y a beaucoup de choses qui ne veulent pas nous laisser faire la prière. Alors, il faut se battre. Mais moi, je te recommande, Abdelrahman, c'est d'obéir à tes parents. Parce que tes parents te veulent, tu sais quoi, le bien. Tu trouveras personne sur terre qui t'aime et qui te veut plus de bien que tes parents. Ce qu'ils t'ont mis au monde et tout ce qu'ils font aujourd'hui comme effort, c'est pour toi, pour tes frères et tes sœurs. Et lorsque tes parents te disent de faire quelque chose, c'est parce que c'est bien. Les parents ne disent pas, sauf certains, à leur enfant de faire ce qui est mauvais pour eux, au contraire. Et Dieu dans le Coran, il nous dit à nous parents que nous devons faire la prière. Et nous devons ordonner à nos enfants de faire la prière et on doit patienter. Donc tes parents font bien lorsqu'ils te disent de faire la prière. Alors tu sais comment tu vas faire? Tu vas continuer à la faire même si c'est difficile et tu verras que plus tu grandiras, plus ça sera facile, Inch'Allah. Tu vas continuer à la faire, comme ça va devenir une habitude. Est-ce que tu as du mal à t'asseoir pour manger? Non.
Non.
Tu manges parce que t'as faim,
bien, ouais.
Et puis c'est bon, et puis ça te fait du bien quand tu manges. Bah, tu sais ce qui va t'arriver si tu continues à faire la prière? Avec le temps, si tu fais pas la prière, tu vas étouffer, tu vas te sentir mal, tu vas dire, ah, il me manque quelque chose, vite, il faut que je fasse la prière.
Ouais, des fois la nuit, puisque quand je fais pas la prière la nuit et je dors, Après, j'ai eu peur, j'arrive pas à dormir des fois.
Alhamdoulilah.
Je dors jusque minuit.
Voilà, et après, vite, il faut faire la prière. Bah, c'est très bien. Tu vois, tu commences bien et tu vas bien finir, Inch'Allah, si tu as ce sentiment. Et puis, essaie de la faire aussi avec tes frères, tes sœurs, en groupe. C'est plus facile quand on est à plusieurs contre Shaitan.
Et on a plus de hasanat.
D'accord, et on a beaucoup plus de hasanat. Et tu sais ce que tu dois faire aussi, c'est il faut que tu lises beaucoup. Moi, je te conseille de lire les livres sur la religion, les livres sur la vie du prophète, sur les compagnons, les hadiths. Lis beaucoup parce que plus tu liras, plus tu auras la foi et plus tu seras convaincu, plus tu croiras de manière sûre et certaine et plus ça sera facile.
Ouais, comme une fois, ma mère elle m'a donné un livre qui s'appelle Le prophète t'aime, mon enfant.
Ah, magnifique, de Cheikh Abou Bakr.
Ouais.
Ah oui, le prophète que l'on aime, il est très bien. Alors moi, je te conseille de lire beaucoup, beaucoup de livres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, Dieu va mettre dans ton cœur l'amour. L'amour de quoi? L'amour de Dieu, l'amour du prophète et l'amour de la prière et de tout le reste. Et tu fais des du'as et tes parents vont faire des du'as pour toi, Inch'Allah. Allah yahfidhak
Abdallah. Allah 21h58, on arrive au bout, donc je ne sais pas, soit on attend la prochaine émission, Inch'Allah, on reviendra sur
la thématique. Oui, on n'a pas fini avec les bonnes actions qui vont nous permettre de vivre plus longtemps, Inch'Allah, on y reviendra.
Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc on rappelle les informations, Aïssa, tu lis à VROS très rapidement au niveau de l'information, il nous rappellera juste après, quoi qu'il en soit, à la MJC La Fabrique à Tourcoing, donc vous êtes invité à une conférence débat. C'est le massacre du 17 octobre 1961, c'est le mardi 20 février 2007, donc avec la projection du film Nuit Noire 17 octobre 1961. Voilà, donc c'est une conférence qui est animée par M. Gounan Abdella, qui est documentaliste. Donc vous pouvez y aller, nombreux et nombreuses, et c'est l'AAPI qui organise cette conférence, donc c'est un club de prévention, et JMF qui fait une exposition. Juste avant, donc voilà, le 20 février 2007, donc l'adresse 98 rue de Paris à Tourcoing, MJC La Fabrique, donc l'expo c'est Mémoire d'immigrés, donc voilà, et c'est à partir de 18h jusqu'à au moins 22h, voilà. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine.
Oui, pour la formation relative à l'ISA VROS qui organise donc le forum, forum des métiers, donc samedi demain. Samedi demain à partir de 14h, il me semble, donc deuxième forum des métiers, il y en a eu l'année dernière, où vous avez donc un rassemblement de différents professionnels qui viennent présenter leur métier, donc à destination des jeunes lycéens, voire des étudiants, pourquoi pas, pour qu'ils se fassent un peu une idée des métiers qui se proposent et quelles sont les formations qui amènent à ces métiers. Donc forum des métiers numéro 2, version numéro 2, lycée à VROS, donc c'est rue des Marquis à 59 000 Lille, donc demain 17 février à partir de 14h, inchallah. Juste une petite information sur une prochaine émission qui va prendre naissance sur les ondes de Pastel FM. Je vais laisser une des animatrices de cette émission qui va présenter très succinctement l'émission. Cette émission, vas-y, je t'en prie.
Alors bonsoir, donc je vous présenterai brièvement l'émission qui aura lieu donc ce vendredi de 18h à 19h30, qui s'intitule « À contresens ». Donc on vous attend nombreux pour cette première. Alors les premiers thèmes qui seront abordés la semaine prochaine en compagnie de nos co-animateurs et animateurs, ça sera tout d'abord l'esprit critique, savoir pourquoi aujourd'hui en tant que citoyen, on ne peut pas s'exonérer justement de développer son esprit critique pour comprendre la société, vivre dans la société, surtout être acteur de cette même société. On aura également une rubrique actuelle qui nous permettra de décortiquer ensemble l'actualité de la semaine. On aura une rubrique culturelle où on espère qu'on pourra compter sur vous pour conseiller un livre, un film ou une activité culturelle justement qui nous aidera à développer et à mettre en veille notre esprit critique. Et enfin, on aura un petit débat entre nous et surtout avec vous les auditeurs, puisque d'après ce qu'on nous a dit à Pastel, vous êtes nombreux, vous êtes également friands de débats et nous on vous invite à débattre et à argumenter autour de thèmes très généraux et qui nous concernent surtout directement. Alors on vous attend, je le répète, vendredi de 18h à 19h30, l'émission qui s'intitule « À contresens ». Vous serez avec Louisa, Yamina, Salah et Abdelkader et on vous attend nombreux. À bientôt.
Barakallahu fi. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Ahmed Mikhtar dès 20h.
Ça fait des vendredis chargés en émission de grand intérêt, inchallah. À la bientôt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.